Bonjour et bienvenue dans notre magazine Parcours Grand Débat, André Bourguet au micro. L'année 2017 qui s'approche fera une certaine place à la mémoire de Martin Luther, le moine allemand qui a marqué la réforme dite protestante au XVIe siècle. La faculté de théologie protestante de Montpellier prend un peu d'avance en proposant dans son cours public un portrait du réformateur. Nous commençons par l'intervention d'Élian Cuvillier, professeur de Nouveau Testament dans cette faculté, sur le rapport de Luther au Nouveau Testament et plus généralement aux écrits bibliques, sous le titre « La lettre de Jacques, épître de paille ou poutre dans l'œil de Luther ». Vous allez comprendre.
Ce soir, ce que j'ai choisi de faire, c'est pas faire, je dirais, de la théorie. Parfois, la théorie est utile, de dire voilà quelle était la position de Luther sur les Écritures, etc. On va en parler, mais on va en parler en lisant des textes de Luther. Hein. C'est-à-dire, on va faire un peu d'exégèse et voir un petit peu ce qu'il en est à travers un exemple particulier, qui est l'Épître de Jacques. Je vais y revenir tout de suite. Vous avez donc ce qu'on appelle un exemplier. Enfin, j'ai appris que ça s'appelait comme ça fait très riche. Voilà, donc vous avez un certain nombre de textes, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de tout lire, mais on va se promener un petit peu à travers ça. Et puis vous avez un peu le plan de mon cours, de façon très sommaire. Donc la lettre de Jacques, épître de paille ou poutre dans l'œil de Luther. Jeu de mots sur la paille et la poutre. Alors pourquoi un tel sujet? C'est l'introduction. Sur Luther et l'épître de Jacques, vous l'avez compris, la plupart d'entre vous qui connaissez cet aphorisme, à cause donc de cette célèbre déclaration que nous allons examiner dans le détail, déclaration connue de tous les spécialistes du Nouveau Testament, et qui depuis bientôt 5 siècles, l'année prochaine, embarrasse tous les exégètes protestants qui commentent l'épître de Jacques. Je veux bien sûr parler de cette déclaration par laquelle le réformateur désigne la lettre de Jacques comme épître de paille, indiquant par là le poids moindre, c'est un euphémisme, qu'il lui donne par rapport à d'autres textes du Nouveau Testament positif. Alors je vous propose ce soir d'examiner attentivement, à travers les textes que nous allons lire, donc les motivations de ce jugement lapidaire et surtout ce qu'il nous dit du rapport de Luther aux Écritures, c'est-à-dire évidemment à l'Épître de Jacques, mais derrière l'Épître de Jacques, plus largement, on va le voir, les Écritures, et peut-être aussi, si on a le temps, des conséquences herméneutiques, c'est-à-dire pour l'interprétation des Écritures, et théologiques qui en découlent, non seulement pour lui, mais peut-être aussi d'une certaine manière pour la Réforme, et donc peut-être pour nous aussi dans notre rapport aux Écritures. Alors, je commence directement par mon premier point, Luther et l'Épître de Jacques. Martin Luther, donc, s'est plusieurs fois exprimé sur l'Épître de Jacques et le texte le plus connu, vous l'avez, c'est celui que j'ai numéroté, le numéro 1 dans la liste des textes que je vous ai donné, c'est la préface au Nouveau Testament de 1522, je crois, et au fond, il s'interroge, je vous donne un peu le contexte de l'extrait qu'on va lire, il s'interroge sur les livres essentiels du Nouveau Testament et ce qu'il appelle les plus nobles. Et sa préférence, nous dit-il, ce n'est pas encore l'extrait qu'on lit, va au texte où on trouve non pas décrit beaucoup d'œuvres et de miracles du Christ, ça ne l'intéresse pas, mais où on y trouve exposé la foi au Christ qui triomphe du péché, de la mort et de l'enfer. C'est une expression qu'on retrouve très souvent chez Luther, hein, le Christ qui triomphe de la mort, de l'enfer et du péché, et qui donne la vie, la justice et le salut. Pour lui, ça, c'est l'essence véritable de l'Évangile. Pour lui, et j'espère pour beaucoup d'entre nous. Et eh bien, il dit, et là, nous prenons notre texte, « À partir de tout ce que je viens de dire, tu peux, il s'adresse à nous, un jeu qui s'adresse à un tu peux à présent porter un jugement adéquat sur tous les livres, sous-entendu du Nouveau Testament, et discerner lesquels sont les meilleurs. » Vous voyez déjà le geste qui consiste à dire que, à partir, non pas à partir de son propre petit moi, mais à partir, je dirais, d'un critère externe qui est le Christ, comme salut, justification, eh bien, tu peux discerner. En résumé, alors je coupe un petit peu, en résumé, quels sont ces livres ? L'évangile de Saint Jean et sa première épître, les épîtres de Saint Paul, particulièrement celles aux Romains, aux Galates, aux Éphésiens, et la première épître de Saint Pierre. De chercher, voilà. Voilà les livres qui te montrent le Christ et qui t'enseignent tout ce qu'il t'est nécessaire et salutaire de savoir, même si tu ne voyais ni n'entendais jamais aucun autre livre ni aucune autre doctrine. C'est clair. C'est pourquoi l'épître de Saint Jacques, comparée à eux, est une vraie épître de paille, car elle n'a aucun caractère évangélique en elle. Voilà le fameux jugement de Luther qui est argumenté et qu'il nous faut maintenant étudier, auquel il nous faut nous confronter. Pour Luther, premier point, on va le voir, j'anticipe un petit peu, mais la question de l'auteur de l'épître, pour n'importe quel texte de la Bible d'ailleurs, ce serait le même constat qu'on pourrait faire, la question de savoir qui a écrit l'épître est bien secondaire par rapport à la question de ce que dit le texte. De manière générale, on peut dire que pour Luther, l'important, ce n'est pas savoir qui a écrit, mais ce qui est dit. Et de son point de vue, l'incompatibilité de l'épître de Jacques et d'un texte particulier de l'épître de Jacques que je vous ai donné, vous le verrez tout à l'heure, où il est question de la foi et des œuvres. Et dans ce texte, l'auteur de l'épître de Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. Eh bien, pour Luther, il y a une incompatibilité de ce texte avec la théologie du Paul, c'est du moins son constat. Et ça, c'est le premier point. Et surtout, l'absence de référence au Christ dans l'épître de Jacques, puisque dans l'épître de Jacques, à part le premier verset du premier chapitre et le premier verset du deuxième chapitre où il est mentionné le nom de Christ, il n'y a pas de mention du Christ dans l'épître de Jacques. Donc, vous voyez, ça fait deux critères pour lui rédhibitoires, contradiction avec Paul, qui parle de la justification par la foi, alors que l'épître de Jacques semble parler de la justification par la foi et par les œuvres, en tout cas du salut par la foi et par les œuvres, et l'absence de Christ, ça disqualifie en quelque sorte, en tout cas, pour l'instant je vais dire ça, ça allège l'épître de Jacques par rapport aux autres. L'insistance de Luther sur la foi seule, la sola fide, le conduit en effet à une lecture critique, non seulement de cet épître, mais de tous les textes du Nouveau Testament, voire de tous les textes de la Bible, qui vont être analysés à cette lumière-là. Qu'est-ce qu'ils disent de la justification par la foi ? Et s'ils n'en disent rien, voire s'ils la contredisent, alors, je dirais, il ne le dit que de l'épître de paille, mais on pourrait dire que ça devient des textes de paille, voyez, par rapport au poids que peut avoir Paul. Donc, il ne peut, et ça va être un point important, et on verra pourquoi, il ne peut recevoir positivement ce texte. Quelque chose, là, n'empêche, dire qui ressemble presque à ce qu'il dit à la diète de Worms quand devant les représentants du pape, il dit « Je ne puis autrement, ma conscience m'en empêche », pas sa petite conscience, mais sa conscience est serve, elle est esclave en quelque sorte de la justification par la foi seule, et donc forcément c'est le prisme à travers lequel il va faire passer le texte. Alors, j'y reviendrai, mais juste quand même, je note un petit point important, c'est que l'épître de Jacques n'est pas une épître de paille en elle-même, comme ça. Elle est là, elle serait une épître de paille, elle est une épître de paille, dit-il, comparée aux autres. Vous voyez ? Alors, dès le début, on va lire un second texte un petit peu plus long, moins connu, qui se trouve dans ce qu'on appelle la Bible dite de septembre, dont on n'a pas le texte en français, mais je me le suis fait traduire par un germaniste. Et je vous le lis et je le commente en même temps. C'est un texte beaucoup plus loin. C'est son introduction à l'épître de Jacques. Là, c'était la préface au Nouveau Testament. Et puis, il y a l'introduction à l'épître de Jacques et on lit ceci. Alors c'est très intéressant parce qu'on va voir un Luther qui est parfois contradictoire, en tout cas qui nous apparaît contradictoire. Et c'est ça que c'est là que ça devient intéressant parce que avec ce jugement de premier jugement, on a l'impression que Luther a fait un sort à l'épître de Jacques. Hein? On va voir que même si ce sort est réitéré et assumé, il y a des nuances. Alors, je commence. Je tiens pour bonne l'épître de Jacques, de Saint Jacques. Donc, vous voyez, déjà, ça commence positivement, l'introduction. Hein. Malgré le fait qu'elle ait été rejetée par les anciens. Première mention intéressante qui fait allusion au fait, alors ça, ça n'a aucun rapport avec Luther, mais ça fait allusion au fait qu'au 1er, au 2e siècle, il y a eu une difficulté, une certaine difficulté, moins importante que pour l'Apocalypse, mais l'épître de Jacques a eu de la difficulté à entrer dans le canon parce qu'on s'interrogeait pour savoir quel était ce Jacques qui avait écrit, est-ce que c'était le frère du Seigneur ou est-ce que c'était un autre Jacques ? Et donc, les anciens ont parfois, alors les anciens, c'est les pères de l'Église, hein, certains ont contesté l'apostolicité de l'épître de Jacques, mais pas pour des raisons théologiques, pour des raisons d'auteur. Et on va voir que là-dessus, Luther, ce n'est pas son problème. Mais quand même, il dit, je tiens pour bonne l'épître de Saint-Jacques, malgré le fait qu'elle ait été rejetée par les anciens, parce qu'elle ne pose aucun enseignement humain, mais reste très fidèle à la loi de Dieu. On va comprendre pourquoi, évidemment. Mais ça, c'est intéressant parce que dans la mesure où elle est fidèle à la loi de Dieu, et c'est presque un reproche que Luther lui ferait d'une certaine manière par rapport à Paul, mais parce qu'elle est fidèle à la loi, c'est-à-dire parce qu'elle pose la loi, eh bien, son enseignement, au fond, il n'est pas humain. C'est-à-dire, elle a un statut de parole de Dieu d'une certaine manière. Mais c'est assez cohérent avec ce qu'il dira plus tard sur le fait qu'elle est contradictoire avec Paul, parce qu'il y a toujours chez Luther une tension entre la loi et l'évangile, et qu'il ne peut pas y avoir d'évangile s'il n'y a pas de loi. Vous voyez, il ne peut pas y avoir la loi qui condamne, enfin pardon, il ne peut pas y avoir l'évangile qui gracie s'il n'y a pas la loi qui me rappelle mon incapacité à lui obéir. Donc d'une certaine manière, on pourrait dire que l'épître de Jacques, elle fait une partie du travail en quelque sorte, c'est-à-dire elle pose la loi. Vous me suivez jusque-là ? Par contre, contre l'opinion générale, parce qu'à son époque, l'opinion générale, c'est que l'épître de Jacques est écrite par Jacques, le frère du Seigneur, et donc qu'elle est apostolique, je pense que l'écrit n'est pas apostolique. Alors on se dit, tiens, Luther pense que ce n'est pas écrit par Jacques, le frère du Seigneur. Non, non. Pour les raisons suivantes. Voilà les raisons pour lesquelles Luther pense que l'épître n'est pas apostolique. Tout d'abord, il contredit directement saint Paul et toute l'écriture en soutenant la justification par les œuvres, en disant qu'Abraham a été justifié par ses œuvres puisqu'il a sacrifié son fils. Hein, dans le texte de Jacques 2, 14 à 26, dont on lira un extrait tout à l'heure, eh bien, l'auteur de l'épître de Jacques dit « Ne vois-tu pas que Abraham a été justifié par ses œuvres en sacrifiant son fils ?» Alors que l'apôtre Paul dit que Abraham a été justifié par la foi et ne fait jamais allusion au sacrifice d'Isaac. Vous voyez que là, il y a effectivement une tension. Alors que saint Paul dit en Romains 4 qu'Abraham a été justifié sans les œuvres et par sa foi seule, ce qu'il prouve par Genèse 15, donc avant qu'il ne sacrifie son fils. Ça, c'est très intéressant parce que Luther constate que, au fond, le sacrifice d'Isaac, c'est Genèse 22, et Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice, c'est Genèse 15. Donc Luther, qui est au fond qui fait de l'analyse narrative avant l'heure, constate qu'au fond, la première chose qu'il est dit d'Abraham, c'est pas qu'il a sacrifié son fils et donc qu'il a obéi à Dieu, c'est qu'il a cru et que cela lui fut compté comme justice. Et alors il ajoute, même si on pouvait trouver encore des arguments en faveur de cette épître et de la justification par les œuvres, elle n'est pas tenable, puisqu'elle applique la parole en Genèse 15, qui ne parle que de la foi d'Abraham et non des œuvres, comme l'explique Paul en Romains 4, aux œuvres. Et cette erreur fait qu'elle ne saurait être l'œuvre d'un apôtre. Vous voyez, un apôtre ne peut pas dire ça. Voilà. Deuxièmement, l'épître prétend enseigner des chrétiens alors que tout au long de son enseignement, elle ne parle jamais de la souffrance, de la résurrection et de l'Esprit du Christ. Elle parle plusieurs fois du Christ, mais n'enseigne rien sur lui, mais parle de la foi commune en Dieu. Ça confirme, quand vous lisez l'épître de Jacques, hein, vous n'aurez rien sur la mort, la passion, la résurrection du Christ. Simplement, il y a deux mentions du Christ, puis le reste du temps, au fond, on nous parle de la foi en Dieu. Alors que l'office d'un vrai apôtre, c'est de prêcher la souffrance, la résurrection et l'enseignement du Christ pour poser le vrai fondement de la foi, comme il le dit lui-même en Jean du Gilles, vous témoignerez de moi, et tous les livres saints et justes s'accordent en cela qu'il prêche Christ et témoigne de lui, et c'est là la pierre de touche qui permet de juger tous les livres. Vous voyez, Luther se donne un critère, enfin il se donne. Oui, il se donne, on peut dire subjectif, enfin de l'extérieur, on peut dire qu'il se donne. Mais pour lui, il y a un critère qui s'impose à lui et qui va lui permettre de juger tous les livres du Nouveau Testament, c'est est-ce qu'ils parlent de l'œuvre du Christ, de sa mort, de sa résurrection et de la justification. Voilà. Et Paul ne veut rien savoir d'autre que Christ. Et alors là, c'est très intéressant. Ce qui n'est pas de l'enseignement sur Christ n'est pas apostolique, même si cela nous enseigne Pierre ou Paul. À l'inverse, toute prédication sur Christ est apostolique, même si elle est de la plume de Judas, Anne, Pilate ou Hérode. Évidemment, Luther ne fait jamais dans la nuance. Hein. Il faut qu'il nous mette les extrêmes les plus... Mais c'est important. C'est-à-dire, au fond, peu importe qui te dit l'Évangile. Voilà. Donc, vous voyez, l'apostolicité n'est pas liée à la personne, que ce soit Jacques, le frère du Seigneur, ou Jacques, le voisin de palier, ou que ce soit Paul, l'apôtre, ou je ne sais pas qui. L'important est de quoi ils parlent et qu'est-ce qu'ils disent. Et puis il continue, mais ce Jacques ne fait rien d'autre que de pousser vers la loi et ses œuvres. Et il mélange tout. Si bien qu'il me semble qu'il s'agit de quelque homme pieux, qui a entendu beaucoup de paroles des disciples, des apôtres et qui les a mises sur le papier, ou peut-être c'est écrit par quelqu'un d'autre d'après sa prédication, au fond peu importe. Hein. Il nomme la loi une loi de liberté, alors que Paul la nomme une loi de l'esclavage. Alors ça, c'est vrai, ça, c'est un constat. Effectivement, jamais on verrait chez Paul que la Torah est une loi de liberté. Vous voyez ? Mais chez Jacques, la loi est une loi de liberté, alors que Paul la nomme une loi de l'esclavage, de la colère, de la mort et du péché. On va laisser là-dessus. Hein ? Mais, si quand même, dernière partie, summa, c'est-à-dire résumé de son argumentation. Il voulait s'opposer à ceux qui faisaient confiance en la foi seule, sans les œuvres, mais il n'était pas à la hauteur de cette tâche. Donc il a bien voulu essayer, en quelque sorte, hein, de s'opposer à Paul, en quelque sorte, hein, ni par sa compréhension, ni par sa réflexion, ni par son expression. Il détruit l'Écriture et s'oppose ainsi à Paul et à toute l'Écriture. Il veut atteindre son but en appliquant la loi là où les apôtres appellent à l'amour. Donc on se dit, il va la supprimer du canon. Mais non. C'est pourquoi je ne veux pas l'avoir dans ma Bible, parmi les vrais livres principaux, mais je ne veux empêcher personne de le garder et le placer comme il le désire, car l'Épître contient par ailleurs quelques bonnes paroles. Et alors, est-ce qu'il dit ça parce qu'il ne peut pas aller jusqu'à avoir la prétention de refaire le canon ? Sans doute, mais vous voyez, il y a cette contradiction intéressante. Moi, je ne la veux pas dans ma Bible, mais après tout, parce qu'au début, il a bien dit que c'était pas une œuvre humaine, puisqu'elle parler de la loi. Vous voyez ? Donc il y a une fonction de cette épître, mais il ne faut pas se tromper de sa fonction. Elle ne parle pas de l'Évangile, elle parle de la loi. Vous voyez ? Bon. Un seul homme ne compte pas en ce qui concerne les choses de ce monde. Comment alors ce seul auteur pourrait valoir contre Paul et toute l'Écriture ? Voilà ce jugement un peu radical. Et alors évidemment, ça, il faut aussi en prendre avec des pincettes. Le texte 3 va encore plus loin puisque c'est dans les propos de table. Alors, la question du statut des propos de table est un peu compliquée. On sait que c'est des apocryphes, on ne sait pas si c'est de lui, si ce n'est pas tout à fait de lui, c'est les gens qui notaient. Donc, si non est vero, ben trovato, si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé. On y trouve les pires des choses dans ces propos de table, mais c'est comme ça, c'est aussi le personnage. Et alors, c'est encore plus expéditif, c'est le texte numéro 3. Rejetons l'épître de Jacques dans ce cours, Alors, je ne sais pas pourquoi c'est dans ce cours, il faudrait voir dans cet enseignement peut-être, hein, car elle ne contient aucune syllabe du Christ. Elle ne parle pas une seule fois du Christ, si ce n'est au début. Je pense que c'est l'œuvre d'un quelconque juif qui a entendu parler du Christ, mais n'y a rien compris. Alors là aussi, on en reparlera, je pense, dans ce cours. Le rapport de Luther avec le judaïsme est assez compliqué, assez complexe. Et voilà, hein, on vous aurez l'occasion d'en entendre parler. Et puisqu'il a entendu dire que les chrétiens insistent tant sur la foi en Christ, il s'est dit, on va aller vers eux et traiter exclusivement des œuvres, comme il le fait. De la passion et de la résurrection du Christ, il ne dit pas une seule parole, alors que c'est là toute la prédication des apôtres. Donc, on retrouve le même leitmotiv, hein. Et en plus, il n'a aucun ordre ni méthode. Alors ça, c'est une question assez pertinente parce que tous les exégètes sont confrontés à la question du plan, de la structure de l'épître de Jacques, qui est très difficile à trouver. Donc là, c'est un bon lecteur. Il se dit, mais c'est compliqué de trouver une structure. Alors les exégètes finissent toujours par en trouver une. Il n'y a pas de souci. Hein. J'ai fait un commentaire à l'épître et j'ai trouvé un plan que j'ai longtemps pensé être le meilleur. Mais si je le relis maintenant, je me dis, ouais, bon, peut-être. Peu importe. Hein. Bien. Donc, vous voyez, c'est un jugement délibérément subjectif et dépréciatif que Luther porte sur l'épître. Au fond, tout avec cette nuance qu'il la garde dans le canon, quand même. Donc ça, bon, il y a quelque chose là dont on pourra parler. Mais je voudrais en venir maintenant à un autre point plus important, peut-être. Au fond, cette décision de Luther dépréciative de l'épître de Jacques est clairement liée à son expérience de croyant. Je m'explique. La fameuse expérience dont vous entendez peut-être parler, dite de la tour, hein, où, méditant sur l'épître aux Romains, il fait l'expérience, en lisant l'épître aux Romains, que ce terme de justice de Dieu qu'il avait entendu pendant des années comme le condamnant parce qu'il n'était pas capable d'obéir à la loi de Dieu, bien, un jour il découvre, alors qu'il l'avait lu des centaines et des centaines de fois, que c'est une justice salvatrice. Vous voyez, ce renversement qui s'opère, et qui est vraiment, je dirais, qui structurera après sa pensée théologique, eh bien, cette expérience fondatrice va changer son regard sur la Bible. Vous voyez, c'est comme s'il avait changé de lunettes, en quelque sorte. C'est la même Bible. C'est la même, je dirais, c'est les mêmes capacités intellectuelles qu'il a de la lire, de la traduire de l'hébreu et du grec, etc. Mais il ne la regarde plus de la même manière. J'en veux pour preuve, c'est le texte numéro 4 qui est écrit avant 1517, quand Luther est encore un enseignant dans son monastère augustin. Et donc, il donne un cours sur l'épître aux Romains et il compare l'épître aux Romains et l'épître de Jacques, et il dit ceci, avant, je dirais, sa conversion en quelque sorte, ou son... Donc quand le bienheureux Jacques et l'apôtre, sous-entendu l'apôtre Paul, disent que l'homme est justifié par les œuvres, vous voyez déjà, ça, il ne pourra plus le dire après ça, hein, ils discutent contre la fausse compréhension de ceux qui pensaient que la foi sans ses propres œuvres suffit. On y reviendra sur cette idée de la foi sans ses propres œuvres suffit. Parce que même le Luther, d'après l'expérience de la tour, dira que la foi a des œuvres. Mais on reviendra là-dessus. Mais bon, alors que l'apôtre ne dit pas que la foi justifie ou existe sans ses propres œuvres, mais qu'elle justifie sans les œuvres de la loi. Alors ça, c'est une nuance très importante. D'une certaine manière, le Luther, d'avant l'expérience de la tour, est un meilleur lecteur, parfois, de Paul, je dirais du strict point de vue exégétique, c'est-à-dire du donné textuel. On y reviendra là-dessus. Donc la justification requiert non les œuvres de la loi, mais une foi vivante qui produit ses propres œuvres. Ça, il ne dira pas le contraire après. Mais au fond, ce qui est intéressant, c'est qu'avant l'expérience de la tour, il le voit aussi dans l'épître de Jacques, et à mon avis, à juste titre. Mais après l'expérience de la tour, il ne peut plus le voir dans l'épître de Jacques. Ça, c'est intéressant. Alors, pourquoi ? Sans doute parce qu'à ce moment-là, l'épître de Jacques est utilisé dans la controverse par la théologie catholique pour dire que Luther se trompe. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui se passe, au fond, qui, d'une certaine manière, jusqu'à un certain point, sa focalisation sur cette expérience de la justification par la foi l'empêche désormais d'avoir une lecture nuancée de l'épître de Jacques. Le fait donc que Luther se décide de façon exclusive pour Paul l'amène à élaborer un nouveau principe de critique du canon, posant comme synonyme de canonique et apostolique, donc canonique et apostolique, c'est synonyme, mais où apostolique n'est pas compris de façon historique, au sens où l'écrit serait de la plume même d'un apôtre, mais de façon kérigmatique, au sens du contenu de la prédication, hein, prêcher le Christ, traiter du Christ. Voilà désormais le critère selon lequel il faut juger l'ensemble de l'Écriture. Hein. Ce qui n'est pas de l'enseignement du Christ n'est pas apostolique, même si cela nous enseigne Pierre ou Paul. À l'inverse, toute prédication sur Christ est apostolique, même si elle est de la plume de Jude, Anne, Pilate ou Hérode, c'est-à-dire les pires ennemis, les méchants en quelque sorte, des évangiles en quelque sorte. Vous voyez ? Voilà. Alors, je fais une petite pause ici avec un petit excursus, mais cet petit excursus, comme tous les excursus, il a un intérêt pour mon argumentation. C'est que ce que j'appelle une reprise luthérienne de l'Épître. Cette reprise luthérienne, je vais la chercher au XIXe siècle, chez Kierkegaard. Kierkegaard, il n'y a pas plus luthérien que Kierkegaard. Hein, il n'y a pas un iota, sans doute, de différence, même s'il y a quatre siècles qui les séparent. Mais il y a un texte de Kierkegaard dans ses œuvres qui s'appelle « Pour un examen de conscience recommandé aux contemporains ».« Pour un examen de conscience recommandé aux contemporains ». Et les contemporains de Kierkegaard, c'est l'église luthérienne danoise, c'est-à-dire église d'État. Hein, voilà. Et il s'agit en fait d'une prédication sur l'épître de Jacques. Et le philosophe danois, dont le profond enracinement dans la théologie luthérienne est un fait incontestable, rappelle d'abord l'opinion critique de Luther. Et il sait bien qu'il a affaire avec ça lui aussi. Hein, à l'encontre de Jacques. Il constate cependant que le contexte de l'église danoise n'étant pas celui du XVIe siècle, il dit mais les propos de Jacques doivent être entendus dans toute leur rigueur critique. C'est-à-dire, il dit au fond, oui, bien sûr, Luther a raison. Il faut insister sur la justification par la foi, sans les œuvres de la loi. Mais s'il avait été là aujourd'hui, dans l'église danoise, qui a transformé la foi seule en une excuse, je cite, pour le style de vie bourgeois, c'est-à-dire, moi, je suis justifié par la foi. Tout va bien. J'ai ma petite carte, vous savez, la foi, protestant, baptisé, musée du désert, vous savez, toutes les marques identitaires qui font que, au fond, c'est ça la foi. Il dirait il aurait utilisé l'épître de Jacques pour rappeler que la foi sans les œuvres est morte. Vous voyez, c'est intéressant de Kierkegaard qui dit oui, il a raison, dans son contexte, il a raison. Non, je ne sais pas ce que Luther aurait fait. Hein, mais ce qui était, et d'une certaine manière, on trouverait la même démarche chez Bonhoeffer, luthérien s'il en est, hein, qui, dans les années 30, dit exactement la même chose quand il commente l'épître de Jacques, lui aussi. Il dit, mais à l'église allemande des années 30, qui est complètement faite de bons protestants, qui sont protestants de père en fils, de génération en génération, et descendants de Luther s'il en est, il faut leur rappeler l'épître de Jacques. Retenons ça parce qu'on verra peut-être que c'est ça l'enjeu de l'épître de Jacques. C'est-à-dire que la question est de savoir, est-ce que l'épître de Jacques s'élève contre Paul, ce que Luther voit après sa conversion, ou est-ce que l'épître de Jacques s'élève contre un certain paulinisme, ce qui est autre chose. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Luther, ça, il y a un moment donné, dans le contexte historique qui est le sien, il ne peut pas le voir. C'est pas grave, hein, il ne peut pas le voir.
Thank you.
réseau FM+, radio associative régionale émettant sur Montpellier et Nîmes, le professeur Élian Cuvillier analyse les réserves fameuses que le réformateur Martin Luther porte sur ce texte du Nouveau Testament, l'Épître de Jacques. Il poursuit.
Et j'en viens à mon point numéro 2. Calvin, lecteur critique de Luther. Je vous invite ici, on reviendra sur d'autres textes de Luther, mais je vous invite à venir à la page 5 de l'exemplier que je vous ai donné. Alors, Jean Calvin va prendre ses distances par rapport à la lecture que fait Luther. Je lis. « Toutefois, de ma part, parce que je ne vois cause qui soit suffisante pour la rejeter, et c'est l'introduction à l'épître, au commentaire de l'épître de Jacques, hein, je la reçois volontiers et sans en faire difficulté quelconque. Car quand ce qu'il semble avis que le second chapitre, celui auquel je faisais allusion, renverse la doctrine de la justification gratuite, nous résoudrons facilement ce doute quand on viendra à l'exposition du passage. » Ça, c'est l'introduction. Hein. Et quant à ce qu'on pourrait penser qu'il ne magnifie pas la grâce de Christ en telle sorte que doit faire un apôtre, là, il vise directement Luther, hein. Certes, la réponse est facile, à savoir que nous ne devons pas requérir précisément que tous traitent même argument ou point de doctrine. Par quoi, pour recevoir cette épître, se métasser qu'elle ne contient rien indigne d'un apôtre du Christ. Mais au contraire, elle est toute pleine de diverses et bonnes doctrines dont l'utilité s'étend bien loin à toutes les parties de la vie chrétienne. Si on y prend bien garde, c'est pas très différent de ce que dit Luther sur le fait qu'elle a plein de diverses et bonnes doctrines. Vous voyez ? Simplement, chez Luther, on clive. Chez Calvin, on harmonise. Et c'est très lié à leur posture théologique un peu différente. Je lis le second texte et puis je commente. Là, il commente Jacques Devin. La foi sans les œuvres est morte. Alors, Calvin commente, il n'est point ici question de la cause de la justification. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de savoir que la justification viendrait des œuvres. Mais seulement que vaut et en quelle estime on doit avoir la profession de foi sans les œuvres. Par quoi, quand il dit qu'Abraham a été justifié par la foi, Jacques parle de l'approbation de justice. Quand donc les sophistes, et là, le sophiste principal, c'est Luther, opposent Saint Jacques à Saint Paul, ils s'abusent en l'ambiguïté de la signification du mot. Car quand Saint Paul enseigne que nous sommes justifiés par la foi, il ne signifie autre chose, sinon que nous sommes réputés justes devant Dieu. La déclaration de justice, alors qu'on n'est pas juste, Dieu nous déclare juste. Là, Calvin est totalement comme Luther. Mais Saint Jacques regarde bien à un autre but, à savoir que celui qui se dit être fidèle démontre par œuvre que sa foi est vraie. Ce qui est intéressant ici, c'est que Calvin, fort heureusement, à mon point de vue, ne dit pas que démontre par ses œuvres, mais démontre par œuvre que sa foi est vraie. On va y revenir. L'attitude de Calvin deviendra la norme par la suite dans l'exégèse protestante. Je fais ici simplement deux remarques. D'une part, je pense que la position théologique de Calvin, qui est plus, de Luther, qui est christocentrique, qui est complètement, organisée autour de la figure du Christ, offre à Luther une très grande liberté quant au jugement qu'il va porter sur les textes bibliques. Une liberté, je répète, qu'il n'invente pas lui-même, mais qu'il reçoit de ce critère. Ce qui n'est pas le cas de Calvin, dont le souci permanent est de pouvoir mettre l'ensemble des textes bibliques au service d'une construction qui est plus théocentrique. Il y a une harmonie, une analogie de la foi. Alors, vous allez me dire, chez Luther aussi, puisqu'il y a la loi et l'évangile. Mais la loi et l'évangile sont en tension. Ça, c'est le premier point. D'autre part, lorsque Calvin affirme que l'épître de Jacques ne contient rien d'indigne d'un apôtre du Christ, il s'agit pour lui de souligner que si rien de contradictoire avec la saine doctrine ne se lit chez Jacques, cette saine doctrine ne s'y trouve cependant pas toute. Ni sans doute ne s'y trouve pas dans ce qu'elle a d'essentiel. Vous voyez ? qu'il faut aller chercher ailleurs, en particulier dans l'Épître aux Romains. C'est en ce sens que je dis qu'au fond, leur position n'est pas très différente. Le jugement qu'ils portent sur le fond du propos de Jacques, et en quelque sorte même, Calvin dit, oui, bien sûr, il n'y a pas la justification par la foi telle que Paul la porte. Voyez ? En définitive, on peut dire que Luther et Calvin s'accordent pour considérer que sans être un texte majeur du Nouveau Testament, parce que pour Calvin aussi, c'est un texte mineur. Voyez ? L'Épître contient un enseignement utile. Voyez ? Alors, peut-être que je force un peu le trait, hein, mais au fond, je dirais qu'on pourrait presque les mettre d'accord sur, d'une part, qu'elle n'est pas centrale dans le Nouveau Testament. Deuxièmement, qu'il y a des choses utiles en elle, mais là où ils ne sont pas d'accord, c'est qu'au fond, Luther clive, elle s'oppose à Paul, mais d'une certaine manière, c'est ça qui peut faire surgir l'Évangile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un conflit entre la loi et l'Évangile. Alors que chez Luther, chez Calvin, on harmonise. Et on peut passer de l'un à l'autre. Alors maintenant, venons-en, texte suivant. Voilà, ça y est, je l'ai. C'est un fait que les pères de l'Église, sous-entendu, donc ça c'est théologie catholique, hein, contemporaine de Luther et de Calvin. C'est un fait que les pères utilisent parfois ces mots seuls, uniquement, qui sont exclusifs, mais bien autrement que les protestants. Certains, les pères de l'Église, hein, en effet, excluent par là, donc il s'agit de dire la foi seule, hein, certains excluent par là des œuvres de la loi mosaïque. Ceci contre les Juifs. D'autres, les œuvres de nature et les vertus morales attestées sans la grâce ni la connaissance de Christ. Ceci contre les païens. C'est-à-dire que sans le Christ, on pourrait, par ses œuvres, être sauvé. D'autres encore excluent la nécessité des œuvres bonnes quand les gens concernés manquent de temps ou de moyens pour les accomplir, comme dans le cas du brigand pénitent sur la croix. Dès aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il est clair que la foi seule, ici, le sauve. Et qu'il n'a rien à accomplir d'autre, puisqu'il va mourir. Hein ? D'autres excluent les opinions fausses, les sectes et doctrines religieuses contraires à la foi catholique, ceci contre les hérétiques et les mécréants. La foi seule, la vraie, sauve. D'autres excluent l'usage de la raison, de l'intelligence et la discussion quand il s'agit de foi et de mystère contre ceux qui ne veulent rien croire sans le comprendre. L'idée étant qu'il faudrait d'abord qu'on me prouve pour que je croie, la foi seule. Hein ? D'autres le méritent des œuvres faites dans l'état de péché qui précède la première justification. C'est-à-dire je pourrais, en état de péché, faire des œuvres qui me sauveraient. Non, la foi seule. D'autres excluent les pharisiens arrogants qui se prévalent des œuvres et de la propre justice de l'homme contre ceux qui ne réfèrent pas leur action et actes bons à la grâce de Dieu. C'est-à-dire, ce seraient mes propres œuvres. Et ce n'est pas Dieu qui me les aurait inspirées. Non. C'est dans ce but que les saints docteurs disent parfois que seule la foi sauve et donne accès au salut. Mais ce n'est jamais, comme les protestants le prétendent, dans le but d'exclure de la justification ou du salut la coopération du libre arbitre humain, la disposition et la préparation de nos cœurs par la pénitence, les prières et les sacrements, les vertus d'espérance et de charité, l'intention de bien faire et d'observer les commandements de Dieu, et encore moins les œuvres et les mérites des enfants de Dieu, conséquences de la grâce et de la charité, après qu'ils sont justifiés et ont trouvé la faveur de Dieu. Car en effet, il ne s'agit plus là seulement de disposition et de préparation à la justice, mais de la cause méritoire d'une plus grande justice et du salut. Et là, c'est typiquement ce qu'on appelle la théologie catholique tridentine, c'est-à-dire du Concile de Trente, de la contre-réforme, qui ne consiste pas à dire qu'on est sauvé par les œuvres. Jamais la théologie catholique ne dit qu'on est sauvé par les œuvres. Elle dit qu'on est sauvé par la grâce de Dieu qui justifie le pécheur, ce que la théologie tridentine appelle la première justification, mais cette première justification est suivie de tout un travail, je dirais, de sanctification, si j'ose employer ce terme, encore que ce soit un peu différent dans le protestantisme, dans lequel, avec l'aide de la grâce de Dieu, le croyant va produire des œuvres qui vont le conduire à une plus grande justice et le salut. Stricto sensu, en bonne théologie luthéro-réformée, jusqu'à sa mort, le croyant est un impie, un injuste, qui est déclaré juste par une décision de Dieu. Mais jamais il est juste. Et il pourra faire tout ce qu'il voudra pour le devenir, il ne le deviendra jamais. Mais il sera toujours justifié. La question est de savoir, et les œuvres là-dedans. Luther dira, jamais les œuvres du croyant ne le justifieront. Mais la foi produit ses propres œuvres. Hein ? Qui ont le fait que, le fait de croire, le fait de confesser sa foi, de proclamer sa foi, agit. Hein ? Mais produit quelque chose qui va œuvrer pour celui qui m'entend ou pour celui que je croise, etc. Vous voyez, c'est, alors, évidemment qu'au quotidien, la plupart des protestants sont catholiques. Et parfois, certains catholiques sont protestants sans le savoir. Vous voyez ? C'est-à-dire que ces nuances-là, on ne les fait plus. Et très souvent, ce qu'on appelle la sanctification chez les protestants, c'est simplement de dire, bon, maintenant que je crois et que Dieu m'a justifié, il faut que je montre par mes œuvres que je suis un bon chrétien. Et alors, j'essaie de faire plein de choses pour montrer que je suis un bon chrétien. Des fois, j'y arrive, hein, des fois, ça marche. Hein, y a plein de choses sympathiques qui se font. Mais du point de vue de la théologie protestante, ça ne sert à rien. Je fais un petit maintenant excursus numéro 2. C'est pour en venir à notre texte quand même. Je ne vous ai pas mis tout le texte, mais j'ai mis un extrait du texte. La toute dernière page. Voilà. J'ai mis en parallèle un texte de Paul et un texte de Jacques. Hein ? Alors je lis le texte de Paul. « Nous savons cependant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en ou de Jésus-Christ. » En grec, la pistis Christou. Vous savez qu'on peut le traduire par un génitif subjectif ou un génitif objectif. Donc on ne va pas aborder ce sujet ici. « Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en ou du Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que par les œuvres de la loi, personne ne sera justifié. Mais si en cherchant à être justifié en Christ, nous avons été trouvés pécheurs, nous aussi, Christ serait-il... » Bon, je ne continue pas le texte. Vous voyez un peu l'état d'esprit dans lequel on est. Je lis Jacques. « Quel profit, mes frères, si quelqu'un dit avoir foi, mais n'a pas d'œuvre ? Sa foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur se trouve nu et manquant de la nourriture quotidienne, et quelqu'un de vous leur dit « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », mais ne leur donnez pas les choses nécessaires du corps, quel profit ? Ainsi aussi, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais si quelqu'un dit « Toi, tu as la foi, moi aussi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai hors de mes œuvres la foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, et les démons le croient et ils tremblent. » Vous voyez que c'est un texte, vous vous rappelez le Canada Dry, vous savez, la pub du Canada Dry, ça a le goût de l'alcool, la couleur de l'alcool, le goût, mais ce n'est pas de l'alcool. Hein. Eh bien, on pourrait presque dire ça de l'épître de Jacques, ça a le goût de Paul, l'odeur de Paul, mais ce n'est pas du Paul. Hein. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que je vous ai mis par des ombrages ou des soulignements là où c'est parallèle. Mais vous voyez de suite là où c'est parallèle que ça ne l'est pas. Chaque fois que Jacques parle d'œuvre, Paul parle d'œuvre de la loi. Chaque fois que Jacques parle de foi, Paul parle de foi en Christ. Vous voyez que l'opposition, on dit il y a œuvre-foi. Non. Il y a œuvre-foi d'un côté, œuvre de la loi, foi en Christ, de l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas la même opposition. Les œuvres de la loi, ça renvoie à la Torah, très directement. Les œuvres, ça renvoie dans le langage du christianisme primitif à la question de savoir ce qu'il faut que je fasse. Et la foi, de quelle foi il est question dans le texte de l'Épître de Jacques ? La seule foi où elle est qualifiée, c'est la foi en Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient et ils tremblent. Alors vous allez me dire, mais foi en Dieu et foi en Christ, non, c'est pas la même chose. Je veux dire, ça peut être la même chose si on pense que Christ est Dieu, le Fils de Dieu. Mais dans le texte, c'est pas la même chose. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'au fond, Jacques, vraisemblablement, comme Kierkegaard et Bonhoeffer, est en train de discuter avec des chrétiens pauliniens qui disent « Moi, j'ai la foi, j'ai pas besoin d'œuvre. » Mais en disant ça, il ne parle plus à la manière de Paul. Parce que Paul parle des œuvres de la loi, c'est-à-dire d'un rapport à la Torah comme identité religieuse. Ce n'est pas la question de savoir s'il faut que je fasse du bien à mon prochain ou pas du bien à mon prochain. Et il ne parle pas de la foi comme « je crois ». Je crois qu'il existe un Dieu. Il parle de cette relation vivante avec le Christ. De telle manière que je pose l'hypothèse, je n'ai pas le temps de vous le montrer ce soir, mais on pourrait le montrer, je ne suis pas le seul à l'avoir fait, et beaucoup l'ont déjà dit, et je pense qu'ils ont raison, qu'on pourrait tout à fait dire que ce qui correspond à œuvre, ce que Jacques met sous le mot œuvre, pourrait très bien être foi en Christ. Et ce qu'il met sous foi, pourrait très bien représenter ce que Paul met sous œuvre de la loi. C'est-à-dire, je m'explique, quand il dit « Non, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient, ils tremblent », il veut dire par là « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, comme plein de gens disent, moi je crois en Dieu ». Ou comme plein de gens disent, les œuvres de la loi, c'est l'identité. Je suis baptisé, ou je suis circoncis, ou j'observe le sabbat, c'est-à-dire j'ai l'identité qu'il faut. Mais je n'ai pas une relation vivante avec le Christ. Et derrière le mot œuvre, on pourrait tout à fait montrer que dans l'épître de Jacques, les œuvres, c'est ergon, c'est l'énergie, l'énergon que la parole du Christ met en moi. Non pas qui me fait agir, mais qui agit la parole en moi. Vous voyez ? Donc ça, je pense que Luther ne peut pas le voir dans son contexte. Voilà. Hein ? Voilà, donc ça pour dire que on pourrait dire les choses comme ça. Je continue maintenant, et ce sera bientôt fini, rassurez-vous. Luther interprète original des Écritures. J'ai encore le temps de vous lire un autre texte de Luther, texte numéro 7. Alors ce texte, c'est une prédication de Luther. Une prédication de Luther sur un texte bien connu des évangiles qui est le texte de la Syrophénicienne, vous savez, la femme cananéenne. Matthieu 15, 21-28, cette femme qui a sa fille malade, qui vient voir Jésus et qui demande de guérir sa fille, et Jésus refuse en disant « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Et puis même à un moment donné, il ne lui dit plus rien. Et puis elle insiste, elle dit, mais au fond, il n'est pas bon de donner aux chiens le pain des enfants. Et la femme dit, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Et Jésus dit, voyant sa foi, il lui dit, ta fille est guérie. Donc c'est un texte assez intéressant. Et dans l'interprétation, on se demande, est-ce que cette femme a réussi à convaincre Jésus de changer d'attitude, ou est-ce que Jésus, pédagogiquement, l'a amené? Alors, c'est des débats sans fin entre les exégètes. Hein. Moi, je pense que selon le texte, la version de Marc ou la version de Matthieu, on peut aller dans un sens. Peu importe. Lisons Luther. Elle prit instamment, tombe à ses pieds et dit, Seigneur, aide-moi. C'est alors qu'elle s'attire le dernier coup meurtrier. Il dit clairement qu'elle est un chien indigne de partager le pain des enfants. Que peut-elle dire alors? Il lui reproche carrément d'être du nombre des damnés, des perdus, impossibles à compter parmi les élus. Donc là, il y a une lecture sur la dureté de Jésus, qu'on fait tous quand on lit ce texte. Hein, c'est là une réponse éternellement irrévocable, absolument incontournable. Pourtant, la femme ne cède pas. Au contraire, elle va jusqu'à se rallier à son jugement. Elle reconnaît être un chien, et elle ne demande rien plus qu'un chien. Rien de plus qu'un chien. Manger les miettes qui tombent de la table du maître. Vous voyez, premier point, premier commentaire. Au fond, Luther dit, elle accepte le jugement. C'est-à-dire, elle accepte la loi qui tombe sur elle. Tu es perdu, en quelque sorte. Tu es un chien. Tu es une païenne, en quelque sorte. Hein ? N'est-ce pas là un coup de maître ? Elle attrape le Christ dans ses propres paroles. Il faut oser dire ça au XVIe siècle. Voyez, aujourd'hui, les prédicateurs font ça sans problème. Au XVIe siècle, elle attrape le Christ dans ses propres paroles. Il la compare à un chien, elle est d'accord. Et demande seulement qu'il la laisse être un chien, conformément à son jugement. Ça veut dire quoi, la laisser être un chien ? Ben, manger les miettes qui tombent de la table. Que pouvait-il faire ? Il était attrapé. Faut oser dire ça. Hein ? Elle attrape le Christ. Hein ? C'est vrai qu'on laisse au chien les petites miettes sous la table, c'est son droit. C'est pourquoi le Christ se dévoile maintenant tout à fait, il se rend à sa volonté. Elle n'est pas un chien, elle est elle aussi un enfant d'Israël. Vous voyez le paradoxe ? Dès lors qu'elle accepte d'être un chien, elle n'est plus un chien. Vous voyez, ça c'est l'articulation de la loi et de l'évangile. Dès lors que j'accepte d'être perdu, je ne suis plus perdu. Vous voyez ? Or, cela est écrit pour tous en guise de consolation et d'enseignement, afin que nous sachions combien profondément Dieu cache sa grâce à nos yeux et que nous ne devons pas le juger d'après nos sentiments et nos pensées, mais uniquement d'après sa parole. Car tu le vois ici, bien que le Christ se montre dur, il ne prononce pourtant pas de sentence définitive. Il ne dit pas non. Au contraire, toutes ses réponses résonnent bien comme un non, mais elles ne sont pas des noms. Elles restent pendant et en suspens. Il ne dit pas « je ne veux pas t'écouter », mais il se tait. Ne dit ni oui ni non. De même, il ne dit pas qu'elle n'est pas de la maison d'Israël, mais qu'il est lui uniquement envoyé à la maison d'Israël. C'est très subtil, hein ? Mais les narratologues aujourd'hui qui lisent les évangiles, ils font ce même type d'argumentation. Vous voyez ? Les choses restent ainsi pendantes, suspendues entre non et oui. De même, il ne dit pas « tu es un chien », tu n'as pas le droit au pain des enfants, mais il dit qu'il n'est pas convenable de donner au chien le pain des enfants. Il laisse encore en suspens la question de savoir si elle est un chien ou non. Dans les trois cas, l'accent porte plus sur le non que sur le oui, et pourtant il se trouve plus de oui, mais tout à fait en profondeur et en secret. Seul le non est apparent. Il y a un oui sous le non. Ça, vous retrouverez ça chez Barthes, hein, mais chez Luther aussi. Cela éclaire la situation dans laquelle se trouve notre cœur au sein de l'épreuve spirituelle. L'épreuve spirituelle, c'est le moment, au fond, où je suis confronté à l'Évangile, en quelque sorte, et au moment où ça va basculer pour moi. Le Christ nous apparaît avec le visage que notre sentiment lui prête. Hein, sous note du traducteur, le Christ réagit à notre égard selon ce que l'on pense de lui. On a le Christ de sa foi. Notre cœur pense qu'il n'y a rien que du nom, et pourtant ce n'est pas vrai. C'est pourquoi notre cœur doit tourner le dos à ce qu'il ressent et faire ce que fait cette petite femme. Saisir et tenir d'une foi ferme, le oui profond est caché en dessous et au-dessus du nom. Et donner raison à Dieu dans le jugement qu'il porte sur nous, alors nous avons gagné. Et nous l'attrapons. Alors maintenant, c'est Dieu, carrément, hein, qu'on attrape dans ses propres paroles. Par exemple, quand nous sentons dans notre conscience que Dieu nous traite de pécheurs et nous juge indignes du royaume des cieux. À ce moment-là, nous ressentons l'enfer et il nous semble que nous sommes perdus pour l'éternité. Il nous semble. Ah, si quelqu'un possédait la science de cette petite femme, s'il pouvait attraper Dieu dans son propre jugement et dire « Oui, Seigneur, c'est vrai, je suis un pécheur, indigne de la grâce. » De ta grâce. Pourtant, tu as promis le pardon aux pécheurs et tu n'es pas venu appeler les justes, mais sauver les pécheurs, comme saint Paul le dit également. Regarde, c'est ainsi que Dieu serait obligé d'avoir pitié de nous en se conformant en son propre jugement. Vous voyez, il ne s'agit pas de dire à Dieu, mais écoute, considère que je suis juste, tu n'as pas bien vu. Je ne suis pas aussi méchant que tu le dis. C'est de dire, mais je suis encore plus méchant que tu le dis, mais comme tu es venu sauver les méchants, tu me sauves. C'est ça qu'il dit. C'est-à-dire, c'est quand je suis au fond du trou et que je l'accepte. Parce que tant que je ne l'accepte pas, j'essaie de sortir de mon trou. Mais dès lors que je suis dans le trou et que je ne peux pas en sortir, alors il m'en sort. Et alors, ça, c'est l'expérience anthropologique de Luther. Je fais ma synthèse et puis on fait la pause. Au fond, on peut dire que Luther apparaît plutôt historiquement comme prônant, vous l'avez compris, une liberté à l'égard des Écritures. Une grande liberté. Mais cette liberté n'est pas la liberté autonome de quelqu'un qui a décidé qu'il en faisait ce qu'il voulait des Écritures. Hein ? Parce que pour Luther, les Écritures se caractérisent par une dialectique du Christ seul et de l'Écriture seule. Bien sûr que l'Écriture est seule à me faire rencontrer le Christ. Mais, au fond, il pose que les Écritures n'ont autorité que parce qu'elles rendent témoignage au Christ. Ceci a pour effet, d'une certaine manière, ce qui deviendra très clair chez Karl Barth, et sur ce point, il est dans la continuité de Luther, et je ne crois pas qu'on soit allé guère plus loin que ça, distinguer entre la parole de Dieu qui est le Christ et les Écritures qui sont le témoignage rendu à la parole de Dieu. Hein ? Il faut citer un dernier passage que vous avez, voilà, à la page 3. Commentaire de l'Épître aux Galates. Supposons encore que les sophistes soient plus subtils que moi et qu'ils me submergent sous leurs arguments en faveur des œuvres et contre la foi. Il faut donc leur répondre tout simplement ainsi. Voici le Christ, et voilà le témoignage de l'Écriture au sujet des œuvres. Or, Christ est Seigneur de l'Écriture et de toutes les œuvres. Peu m'importe les passages de l'Écriture au sujet des œuvres, quand bien même on en avancerait 600 en faveur de la justice des œuvres, j'ai moi l'auteur et le Seigneur de l'Écriture, j'aime mieux me tenir à ses côtés que de te croire. Je te laisse ce serviteur. Pour moi, je fais état du Seigneur qui est le roi des Écritures. Vous voyez, il y a une liberté qui est liée au lien étroit qu'il entretient avec le Christ. On peut dire, et j'en termine avec ça, que cela ouvrira la porte dans le protestantisme de manière générale à une plus grande liberté dans le rapport aux Écritures. Ça, c'est clair. L'université allemande en sera le théâtre. Ce ne sera seulement plus la même dialectique dans l'université allemande où beaucoup d'exégètes seront pas du tout dans ce lien, je dirais, existentiel que Luther entretenait avec le Christ. La dialectique ne sera pas le Christ seul et les Écritures seules, mais plutôt une dialectique raison-écriture. Vous voyez, c'est-à-dire, au fond, une raison déconnectée de la posture subjective du croyant au profit de l'objectivité, entre guillemets, à distance du chercheur, qui considérera la Bible comme objet d'étude et pourra porter un jugement sur elle. Alors, vous voyez, ce n'est plus du tout la même expérience subjective, mais je pense que ce n'est pas pour rien que cette liberté académique aura pris naissance dans le protestantisme et pas dans le catholicisme, même si le catholicisme y viendra plus tard. Hein ?
Sur le réseau FM Plus Antenne de Montpellier, nous venons de suivre une des séquences du cours public de la faculté de théologie de notre ville sur la figure du réformateur Martin Luther au XVIe siècle. Élian Cuvillier, professeur dans cette faculté, se penchait sur un aspect de la personnalité de Luther, sa virulence contre une des épîtres du Nouveau Testament, l'épître de Jacques, épître de paille, parce qu'elle semble contredire le grand principe du réformateur, sa grande découverte, le salut par la foi seule, c'est-à-dire sans le mérite de nos œuvres. Il y a du malentendu là-derrière, évidemment. Au revoir et à bientôt pour un prochain parcours sur FM+. Pris naissance dans le protestantisme.